Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Xavier Nicolas. Maire de Senonge, docteur en pharmacie, il est élu maire en 2001. Il est également conseiller régional du Centre Val-de-Loire, président d'Énergie Eure-et-Loire, président de la communauté de communes des Forêts du Perche et président du CIDEP du Val-Saint-Cyr. Xavier Nicolas, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Vraiment beaucoup de choses à votre actif. Peut-être j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que signifie le président de la communauté des communes des Forêts du Perche.
Ah ben bien volontiers. La communauté de communes des Forêts du Perche, en fait, est le fruit de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui est une loi de 2015 et qui nous a demandé de fusionner en fait les communautés de communes en 2017 pour en faire des communautés de communes plus importantes qu'elles ne l'étaient.
Donc, C'est-à-dire que vous avez combien de communes donc ?
Alors aujourd'hui, nous sommes la plus petite communauté de communes du département. Mmh. Elle rassemble 15 communes et une population de 9000 habitants.
Ah oui, effectivement, c'est pas une grande communauté.
Alors, en Eure-et-Loire, c'est la plus petite. En France, il y en a un grand nombre qui sont beaucoup plus petites.
Ah oui.
Parce qu'après, en effet, il y a une dérogation, si vous voulez, en fonction de la densité de population. Et nous, compte tenu que nous avons plus de milliers d'hectares de forêt que d'habitants, effectivement, nous avons une densité de population qui est faible. Donc, la communauté de communes est assez importante en termes d'espace, mais moins en nombre d'habitants. Et il fallait trouver un équilibre. Elle reste ce qu'on appelle une communauté de communes à taille humaine.
Voilà. Alors, vous êtes également président du CIDEP.
Oui. C'est un syndicat de production et de distribution d'eau potable sur un territoire qui comprend effectivement la communauté de communes des Forêts du Perche, mais un peu plus, un petit peu quelques communes de l'agglomération de Dreux, puisque on fournit également de l'eau à la Mancelière, au Châtelet, un petit peu à Brezol. Et nous sommes sollicités pour fournir de l'eau également à Verneuil-sur-Avre. À des communes voisines, parce que nous avons la chance d'avoir une eau d'une extrême qualité.
Oui, je dois dire que quand vous m'avez fait visiter Senonche, vraiment j'ai découvert une petite ville adorable avec une histoire ô combien intéressante, une activité économique absolument remarquable. J'ai vu toutes ces usines modernes, également de nombreux loisirs, et on va insister parce que les habitants sont heureux chez vous. Je les ai vus, ils se connaissent, ils s'embrassent, il fait bon vivre. J'ai visité avec un grand enthousiasme le château et je suis même allée au cinéma, et vraiment la personne qui m'a accueillie a été vraiment adorable, me montrant les différents programmes. Je dois dire que on a envie en quelque sorte d'aller habiter votre ville. Ce nom, c'est vraiment un endroit remarquable, je dirais.
Merci.
Mais revenons tout d'abord à cette histoire de Senonche, puisque vous avez commencé par me montrer aussi qu'il y avait beaucoup d'eau. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, Senonche, l'étymologie.
Oui, l'étymologie, il y a plusieurs étymologies, mais effectivement, la principale nous dit que Senonchia voudrait dire effectivement au réseau d'eau, et nous avons en effet ce qu'on appelle un réseau, un chevelu même hydrographique important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sources et de petits cours d'eau. On ne peut pas parler de rivière à notre niveau parce qu'on est vraiment en amont. Et puis ce nom, c'est un petit peu en altitude dans notre territoire, à la limite du Perche et de la Beauce. On est à peu près entre 220 et 250 mètres selon les endroits. Et donc nous avons à partir des sources de nombreux petits cours d'eau, des petits ruisseaux, qui ensuite partent tantôt dans la Blaise, tantôt dans l'Avre et rejoignent la Seine ensuite. Voilà, nous sommes dans le bassin Seine-Normandie.
Oui. Alors, je disais une ville intéressante sur le plan historique parce que vous avez un château.
Oui.
Un château qui a été bien restauré, je dois dire. Alors, si vous voulez bien nous faire visiter le château.
Avec plaisir. Alors, avant de mettre en place la scénographie, vous avez raison de dire qu'il a fallu le restaurer. Mmh. C'est un château qui a une histoire intéressante.
Oui.
Puisque, au fond, la région de Senonches était, au fond, à la frontière entre le royaume de France, qui était un peu le royaume d'Île-de-France, d'ailleurs, à ce moment-là, mmh. et le duché de Normandie, les anglo-normands qui étaient en face, qui étaient justement du côté de Verneuil. Voilà. Et donc, il y avait eu au départ un château en bois qui a été détruit ou qui a brûlé. Bon. Et puis, au XIIe siècle, Hugues II de Châteauneuf a construit un premier château, un château fort, avec ses douves, avec effectivement tout un système de défense, et qui a été ensuite, alors tout ce système, les douves ont été ensuite interdites et supprimées par Louis XI. On arrive ensuite au moment des guerres d'Italie. À ce moment-là, Senonches dépendait du duché d'Alençon, et les relations entre le duché d'Alençon et un certain nombre de petits états qui constituaient l'Italie à l'époque étaient finalement assez intéressantes, parce que certains, bien sûr, détestaient les Français qui les envahissaient, ouais. mais d'autres avaient sympathisé oui. avec oui. eux, en particulier les Gonzague-Mantoue. Et le prince de Gonzague et le duc d'Alençon étaient très proches. Ils ont marié leurs enfants. Ils ont marié leurs enfants et le duc d'Alençon a donné comme dot pour sa fille, eh bien, qui est devenue donc effectivement princesse de Gonzague. Il a épousé Louis de Gonzague et le comté de Senonches. Voilà, c'était sa dot. Et un peu plus tard, alors ça c'est tout à fait amusant, sous Charles IX, en 1566, eh bien Senonches a été constitué en principauté.
Une principauté.
Par un édit de Charles IX de 1566. Et il y a eu trois princes de Senonches. Donc il y a eu Louis de Gonzague, et puis ensuite il y a eu Charles Ier et Charles II de Gonzague, puis ce dernier n'a pas eu d'enfant, et donc la principauté de Senonches est revenue à la couronne de France, voilà, 88 ans après. Voilà.
Voilà. Alors, vous avez, quand vous êtes arrivé en 2001, dans quel état était le château?
Alors, ce château, après les Gonzagues au XVIe siècle, qui ont vraiment reconstitué tout le corps de logis, il a ensuite été vendu à différentes grandes familles, de la cour de France, hein, puisqu'il a été racheté par les De Breuil, et puis les Bourbons-Condé, les Bourbons-Conti, et finalement c'est Louis XV qui a racheté le château pour son petit-fils Louis Stanislas Xavier, monsieur, frère du roi Louis XVI ensuite, et futur Louis XVIII lui-même. Le château, il a acheté, ne nous voilons pas la face, hein, ce qui intéressait tous ces princes, c'était la forêt.
Bah oui.
C'était l'exploitation forestière qui était très rentable et qui l'est toujours aujourd'hui.
Oui.
Hein, c'est une forêt
Parce que je parlais d'usine, mais on peut dire que c'est tourisme aussi, parce qu'il y a les forêts, mais c'est aussi l'industrie du bois.
L'industrie du bois, absolument.
Qui était très importante. On va en parler, puisque dans ce château, maintenant, il y a un musée et on peut voir, on va en parler.
Où nous parlons effectivement de toute cette filière du bois. Donc, à la Révolution, eh bien, confiscation de la forêt et du château, qui appartiennent désormais au domaine national. Et c'est toujours le cas de la forêt, qui est restée domaniale, tandis que le château était revendu à un maître de forge, qu'il a donné en 1831 à la commune pour en faire une école. Et un peu plus tard également, il y a eu une gendarmerie. Alors, il y a même eu une salle de justice de paix, et même la mairie s'était installée dans l'enceinte du château au milieu du 19e siècle. Voilà. Sous le moment de la restauration. Alors, bien évidemment, quand il y a eu ensuite, dans les années 1960, les groupes scolaires modernes, nouvelle brigade de gendarmerie, ensuite, bien sûr, la mairie était ailleurs aussi. Bon, donc, le château est tombé en désuétude, et il y a eu une association de passionnés, d'historiens qui s'en sont occupés, qui ont mis des collections un peu d'ailleurs hétérogènes. Il y avait des objets...
Ce qu'ils avaient.
Il y avait l'histoire des objets qui étaient effectivement autour des métiers du bois, mais il y avait aussi des collections d'hyménoptères, des objets d'art sacré. Oui. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Bon. Nous avons donc décidé au début avec mon équipe, quand nous avons été élus en 2001, bon, le château était en plus en mauvais état, qu'il y avait tout autour des bâtiments qui s'étaient greffés, qui étaient accolés au château. Et il fallait redonner du sens à tout cela. Donc avec l'association qu'on a intégrée dans un comité de pilotage,
oui,
pour savoir quel thème il fallait retenir,
oui,
pour la future scénographie du château. Et pour toutes les raisons que vous avez indiquées, spontanément,
c'était la forêt.
Et donc, on a d'abord restauré le château, ça nous a pris plusieurs années.
Mais j'imagine, parce que c'est absolument superbe, c'est une restauration très, très intéressante.
On a de bons échos, effectivement, sur cette restauration. Il fallait refaire, bien évidemment, au fond, on a gardé les murs, le clos et le couvert. Hein, Et on a tout refait.
Créé un musée, en fait.
Et on a créé ce musée. Il fallait installer un ascenseur par rapport aux nouvelles normes dites PMR. Donc, ça, c'était le travail. Puis le comité de pilotage a avancé sur le contenu scénographique. Et
Que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a un centre d'interprétation du patrimoine sur la forêt. Et ça, c'est vraiment remarquable, parce que je pense que vous devez avoir de nombreuses écoles qui viennent pour essayer de comprendre, en effet, toute cette filière.
Absolument. Alors, c'est vrai, on a voulu faire de cette scénographie une scénographie qui soit accessible à tous.
Oui.
C'est-à-dire, ça intéresse les enfants des écoles, mais aussi les adultes.
C'est sûr.
Voilà. Et puisque, en fait, elle est essentiellement basée sur des bornes multimédia interactives et en fonction des centres d'intérêt de chacun, eh bien, on peut, par un système tactile, creuser un sujet ou passer au suivant. Donc, elle est sur trois étages, et on démarre effectivement avec les forêts du monde. Qu'est-ce qu'une forêt? Et puis on décline, les forêts du monde, après les forêts tempérées, les forêts tropicales, et dans les forêts tempérées, les forêts d'Europe, forêt du Perche, forêt de Senonche, qui est la plus importante du département de la Loire, une des plus importantes du Perche. Et ce sont des forêts, mais forêts de chez nous, qui ont aussi leurs spécificités, si vous voulez, qui produisent essentiellement du chêne à grain fin. C'est le seul endroit du monde, je dirais, le Val-de-Loire au sens large, de Troncay à Senonche, Bellem, ce sont ces forêts-là qui produisent ce chêne à grain fin, qui est très apprécié par les producteurs de tonneaux, qui l'achètent, et les, pour des régions comme le Bordelais, les Charentes qui font de
donc vous faites des coupes régulièrement.
Alors c'est l'ONF qui pilote tout ça, puisque c'est resté une forêt domaniale, gérée par l'ONF, et effectivement il y a un plan de gestion pluriannuel qui est arrêté, approuvé par le ministère de l'Agriculture. Et en gros, la forêt de Senonche produit autour de 23 000 mètres cubes de bois par an.
Oui.
Mais c'est intéressant de savoir pourquoi il y a une forêt. C'est pas le hasard.
Oui, oui, alors,
vous parliez de l'eau tout à l'heure. Effectivement, on a dans le sol beaucoup d'eau.
Oui.
Mais on a aussi cette nature du sol, du sous-sol, la lumière, toutes les conditions qui font que cette forêt pousse bien et donne ses chênes de très grande qualité.
Oui. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Avec plaisir.
Je suis toujours avec le maire de Senonche, Xavier Nicolas, et nous avons un peu décrit cette ville qui est à la fois touristique, mais aussi une ville qui a des industries et qui a le bois. Et ça, vous avez expliqué longuement comment vous vous occupiez des forêts, comment se passaient les coupes. Et j'aimerais bien aussi qu'on continue un peu la visite du musée, parce que nous n'avons pas vu tous les étages. Alors,
c'est vrai.
Si vous voulez bien, on va voir peut-être la faune.
Avec plaisir. Alors, peut-être, avant de parler de la faune, peut-être rappeler que, effectivement, la forêt c'est aussi un des principaux pièges à carbone
de notre
planète. Avec juste après le phytoplancton des océans, ce sont les forêts qui sont le principal piège à carbone. Donc elles ont un rôle absolument essentiel, la forêt de Senonches, bien sûr, comme toutes les autres. Et donc c'est intéressant aussi de développer ça, ce qu'on présente, cette photosynthèse.
Montrer qu'il y a un air pur aussi à Senonches.
Et alors après, effectivement, cette forêt et cet environnement permettent le développement d'une biodiversité extrêmement riche avec la faune et la flore que nous présentons également au château. Et puis toute la filière bois, puisque Senonches a une histoire aussi industrielle intéressante. Ben, on l'a vu ensemble, il y a l'eau, il y a le bois, donc on a l'énergie. Il y avait du minerai de fer à ciel ouvert, et donc Senonches a été un haut lieu de la métallurgie du Moyen-Âge au Second Empire, jusqu'à ce qu'il y ait les grands bassins industriels du nord et de l'est de la France. Et à ce moment-là, l'activité métallurgique est tombée en désuétude, mais nous avons toujours
des
vieux fourneaux. Voilà.
Oui, et puis maintenant aussi, de grandes industries.
Et on a des industries qui dérivaient de la...
extrêmement contemporaines, je dirais.
Contemporaines, voilà, qui
c'est
sont adaptées.
C'est ça qui m'a beaucoup plu.
Il y a cette histoire industrielle à Senonches, en effet.
J'ai fait une émission d'ailleurs sur une entreprise.
Une de nos entreprises.
Voilà, Redex. Voilà. Peut-être... vous pouvez en dire quelques mots, parce que c'est quelque chose, je dois dire que c'était la première fois que je voyais une entreprise comme ça.
Ah, c'est une très belle entreprise.
Très belle entreprise.
Très très belle entreprise qui fait des engrenages de précision, ce qu'ils appellent des renvois d'angle.
Voilà.
Donc c'est de la mécanique de haute précision, avec vraiment une très grande finesse de fabrication. 90% de leur chiffre d'affaires est à l'export.
Oui.
Et ils sont pris, et effectivement, ils sont reconnus comme étant des industriels de très grande qualité. Voilà.
Oui, et c'est un peu souvent, comme de l'horlogerie, je dirais.
C'est pratiquement de l'horlogerie industrielle pour les boîtes de vitesse et les renvois d'angle. Voilà.
Oui.
C'est tout à fait ça. Ils travaillent sur des machines à commande numérique, comme vous avez pu le voir, qui nécessitent là aussi une qualité de distribution électrique parfaite. Ouais. Ces machines sont extrêmement très sensibles aux variations, et bon, dans mes fonctions là, au sein d'Énergie Eure-et-Loire, j'ai été amené à travailler avec eux pour garantir une qualité de distribution électrique parfaite pour leurs machines à commande numérique.
Ah oui, 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 il faut aussi que l'électricité soit absolument...
Ah oui, ça ne tolère ni coupure, ni micro-coupure, ni creux de tension. Il faut être extrêmement prudent avec tout ça, sinon, effectivement, ça perturbe la production industrielle.
Voilà. Il y a combien de gens qui travaillent
Alors, c'est une unité. En fait, ils ont deux usines en France. Ils en ont une à Senonches, et puis ils en ont une autre à Ferrand-Gâtinais, où se trouve le siège social. Et à Senonches, alors au total, il y a 200 personnes dans le groupe, mais à Senonches, il y en a une soixantaine.
Voilà. Oui. Alors, il y a d'autres entreprises aussi.
Oui, bien sûr. Alors, on a effectivement notre fleuron industriel à Senonches, c'est le groupe Eurofeu, qui est le numéro un en France des extincteurs, donc qui fabrique à peu près 700 000 extincteurs par an à Senonches.
Oui, ça, c'est important.
Donc, toute la production est à Senonches, le siège social aussi. Après, bon, le groupe qui fait plus de 1000 personnes a des agences un petit peu partout en France, également en Belgique. Bon. Mais à Senonches, donc, nous avons le siège social et toute la production, ce qui fait autour de 250 personnes à peu près qui travaillent sur ce site, qui est effectivement un beau site. On a ensuite des entreprises qui sont dans d'autres domaines. On a Intégration Service qui fait de la restructuration de matériel informatique. Voilà, pour des clients, pour des grands comptes, pour des groupes bancaires qui vont dire, voilà, vous nous équipez 50 agences en informatique.
Et par exemple, quel groupe bancaire
Alors, on travaille avec tous les groupes.
Travaille
avec tous les groupes bancaires, les compagnies d'assurance, puis des grands comptes, des industriels aussi. Voilà. Et recycle également du matériel.
Ça, ce sont des nouvelles entreprises.
C'est une entreprise qu'on a déjà depuis un certain nombre d'années.
Oui. Hein,
voilà. Après, dans les nouvelles activités, alors
vous avez pu faire venir, par exemple.
Oui, alors par exemple, récemment, dans les entreprises que nous avons pu faire venir, on a une entreprise qui s'appelle Storm, qui fait de la maintenance industrielle et de la conception de chaînes de production. pour des industriels, alors dans notre région, essentiellement des industriels de la cosmétique Valley ou de Pôle Pharma.
Oui.
Ils travaillent pour eux, ils leur montent, mais ça peut être aussi dans l'industrie automobile. Bon, ils vont monter des chaînes de production, ils en assurent la conception, la maintenance, le suivi. Une autre entreprise, SMT, un excellent fleuron qu'on a installé à côté d'ailleurs.
SMT, ça veut dire ?
Alors, je ne connais pas la signification de SMT, mais c'est une entreprise, en fait, ils sont dans les télécoms. Le T, ça doit être télécom, puisque...
Société de télécom.
C'est peut-être société de maintenance télécom.
Oui.
Ils travaillent en sous-traitance pour tous les grands opérateurs. Et en fait, c'est eux qui construisent les réseaux. Ils maintiennent et construisent les réseaux, soit cuivre, soit fibre optique. Et là aussi, c'est aussi une entreprise qui a 200 personnes, qui a une agence à Senonches, qui a son siège social à Senonches, qui a une autre agence dans les Yvelines, à Coignères. Et à Senonches, on a une centaine de personnes aussi qui travaillent pour cette entreprise, qui est en recrutement permanent.
Oui.
Un tissu industriel important, vivant. On a également, alors à Digny, au sein de notre communauté de communes, une belle entreprise qui s'appelle Incoplas, qui fabrique les bidons d'huile qui sont dans nos voitures. Donc eux, ce sont des plasturgistes, voilà. Et puis là, nous avons un autre plasturgiste qui devrait nous rejoindre bientôt, qui souhaite racheter une usine qui a fermé il y a 2-3 ans à Senonches, qui était notre dernière usine de meubles et d'agencements Steelwood, qui a fermé parce que victime de la compétition internationale, avec des pays à main d'œuvre à bas prix, notamment l'Europe de l'Est, des pays comme la Slovaquie, la Slovénie, où vous avez des gens qui gagnent 400 euros par mois. Bon, donc bien évidemment, on n'est pas compétitif. Donc c'est une usine qui a fermé et qui là devrait être reprise prochainement par un plasturgiste automobile qui fait des matières plastiques pour...
Et c'est un de vos buts en tant que maire de retrouver d'autres entreprises.
Oui, bien sûr, en permanence. C'est une de nos préoccupations. Alors plus en tant que président de communauté de communes qu'en tant que maire, parce que là aussi la loi NOTRe a dit que l'activité économique était maintenant une compétence des régions et des communautés de communes.
Et oui, ça c'est très intéressant de le dire à nos auditeurs, parce que moi-même, j'ai tendance à parler de municipalité, alors que ça y est, c'est un autre, il faut voir...
C'est un autre étage, et la loi impose, il y a des compétences obligatoires qu'on doit transférer aux communautés de communes de manière obligatoire, d'autres qui sont optionnelles, d'autres qui sont facultatives, tout ça est assez technique,
mais
le développement économique, par exemple, ou l'aménagement du territoire sont des compétences obligatoires. Donc on a c'est géré par la communauté de communes. Et effectivement, alors nous avons à Senonches 1,24 emplois pour un actif. C'est-à-dire qu'on a un quart d'emploi de plus que de gens en âge de travailler.
Ah oui, c'est merveilleux. Quelle est la population à Senonches ?
3200 habitants. Et nous avons et néanmoins, voyez-vous, les Senonchois vont travailler à l'extérieur et les gens de l'extérieur viennent travailler à Senonches. Je caricature un peu, mais on va dire il y a à peine la moitié des Senonchois qui travaillent sur place. Et une autre moitié va travailler ailleurs. Et beaucoup de gens viennent travailler à Senonches et repartent le soir. Un de nos challenges, c'est de voir comment nous pouvons fixer ces populations dans les années qui viennent. Et est-ce possible ? Il y a des tas d'arguments qu'on nous oppose. On veut dire, mais mon conjoint travaille à Paris, donc on habite à mi-chemin entre Paris et Senonches. On rencontre des situations comme ça.
Oui, parce que vous avez beaucoup de Parisiens qui habitent...
Non, dans les cadres, hélas, on a du mal, on voit à fixer les cadres. On fixe facilement le personnel de production. En revanche, les cadres, souvent, habitent... dans les Yvelines, éventuellement à Chartres, voire jusque dans les Hauts-de-Seine pour certains.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
Alors, tissu industriel important, mais je dirais aussi que c'est un lieu touristique.
C'est vrai.
Un lieu touristique parce que vous nous avez emmené très gentiment voir ces cabanes. Et ça, j'aimerais que vous en parliez à nos auditeurs parce que je crois qu'on peut y passer un week-end, mais y passer aussi des vacances.
Absolument. C'est un site que nous avons confié en gestion au groupe Utopia, et dans le cadre d'une délégation de services publics. Et donc Utopia, nous l'avons ouvert, enfin nous avons créé ce site ex nihilo à partir d'une forêt communale et d'un étang sur un petit parc d'une dizaine d'hectares.
En fait, très joli, très bien aménagé.
Oui, c'est un site très agréable. Effectivement, oui. Tous les gens qui viennent le trouvent magnifique. Ça permet vraiment de s'immerger dans un cadre naturel et de vivre une parenthèse, une rupture, notamment pour des citadins qui ont besoin de venir. Alors, comment ça fonctionne? On l'ouvre de Pâques à la Toussaint.
Oui.
Et alors, en demi-saison, le week-end sont les Parisiens.
Oui.
Et en semaine, ce sont des séminaires d'entreprise. Et ça marche très très bien.
Ah oui.
Ce sont des grands groupes. Je crois, par exemple, il y a Nature et Découverte. Mm-hmm. Voilà. On fait le séminaire du personnel ou des cadres. Et on vient du mardi au jeudi.
Mais alors, il y a des salles de réception.
Oui, il y a une salle de réunion. Voilà, il y a salle de réunion. Il y a piscine.
Sur cet endroit merveilleux où il y a les cabanes.
Absolument. Il y a salle de restauration, salle d'accueil, salle de spectacle. Mmh. Il y a une salle de réunion. Il y a une piscine couverte et une piscine découverte. Il y a un spa dans la nature.
Ah oui.
Et tout ça permet véritablement de vivre une rupture tout en travaillant.
Bien
Donc
sûr.
C'est très apprécié des entreprises qui viennent y tenir des séminaires. Et puis l'été, alors juillet-août, c'est essentiellement occupé par les vacanciers.
Oui.
Là, c'est plein à peu près tout le temps. Et ce sont surtout des Européens du Nord.
Ah oui.
Belges, Hollandais, Allemands, Anglais, voilà.
Oui. Ouais. Mais rassurez-moi, cabane, est-ce qu'il y a quand même un lit?
Il y a tout le confort. je devine votre inquiétude. Alors, en effet, ce sont des cabanes, parce qu'elles ce sont des chalets en bois, en fait.
Oui, ça, j'ai vu.
Mais qui ont tout le confort, qui sont raccordés au tout à l'égout, qui ont l'eau courante, qui ont le chauffage, qui ont des douches, des salles de bain, cuisine. Et c'est vraiment très très bien équipé à l'intérieur. C'est assez haut de gamme en prestation.
Oui.
Et alors après, il y a d'autres solutions. Il y a la cabane haut de gamme, et puis il y en a qui sont alors moins chères et avec des prestations plus modestes, mais aussi qui permettent de vivre une autre expérience où il y a un mélange de bois et de toile. Et ça, c'est aussi intéressant. Ça plaît beaucoup, notamment aux jeunes.
Oui.
C'est mieux que du camping. C'est plus confortable que du camping. Mais c'est peut-être une expérience un peu plus fun que que les cabanes. Voilà.
Et la fréquentation est importante?
Nous avons 10 000 nuitées par an.
Ah, quand même.
Voilà, et on pense pouvoir aller au-delà. Voilà.
Ah oui, sûrement.
Ah,
j'espère
oui.
qu'après cette émission, eh bien, beaucoup de touristes vont venir à Senonches, parce que c'est vraiment un endroit que j'ai découvert, je dois dire. Et peut-être nous n'avons pas aussi parlé du musée, parce que le musée est très important et il y a une boutique avec de nombreuses choses très intéressantes.
Oui, alors on termine la visite, effectivement, on la démarre à l'office de tourisme, on fait une boucle, on retermine à l'office de tourisme, mais dans la partie boutique, où effectivement, on permet aux visiteurs, avant de nous quitter, eh bien de découvrir un peu tous les produits du Perche.
Oui.
Alors à la fois gastronomique, bien sûr, mais aussi sous forme de fascicules, de livres. On a un club d'histoire aussi remarquable qui nous sort des fascicules.
Ah, vous avez un club d'histoire?
Oui, on a un club d'historiens qui fonctionne depuis 30 ou 40 ans. Je vous dirais, pour moi qui ne suis pas selon choix d'origine, tout ce que je sais, je l'ai appris grâce à eux. Ils ont sorti une soixantaine de cahiers d'histoire selonchoise. Ils en produisent au moins deux par an. Parce que voilà, au début, c'était des professeurs d'histoire qui avaient constitué ça, dont un d'ailleurs qui est membre de notre conseil municipal et qui est prof d'histoire au collège de Senonches, un autre qui était agrégé au lycée et qui était au lycée Bascan à Rambouillet, puis ensuite dans un lycée de Dreux, qui est le fondateur, là, Paul Alexandre, et puis d'autres qui les ont rejoints et qui nous permettent d'avoir cette connaissance. Ça peut en amuser certains.
Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de Senonches, une ville vraiment qui marie industrie, nature, au cœur du Perche. Un bel art de vivre à Senonches. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Un grand merci, monsieur le maire de Senonches, Xavier Nicolas. À bientôt peut-être pour d'autres émissions.
Merci beaucoup de cette émission.